propre ce qui fait la très grosse difficulté quand vous avez affaire à un principe d'essayer de le faire comprendre à quelqu'un. Parce que ou vous le saisissez, ou vous ne le saisissez pas. Alors si vous le saisissez, vous comprenez que le principe va être pour lui-même sa propre mesure. Si vous ne le saisissez pas, vous pouvez simplement conduire en montrant la voie d'accès, l'induction. Mais vous ne pouvez pas autrement. C'est très, très, très mystérieux. Ça, c'est la vie de l'immanence de l'intelligence. Alors, l'intelligence est capable de se perfectionner elle-même par elle-même. Voilà ce que ça représente. Et c'est ça la saisie d'un principe. Et c'est ça la vérité d'un principe. C'est que l'intelligence est capable de... C'est l'intelligence séparée. C'est l'intelligence qui est capable de quitter, de dépasser le point de vue de l'expérience immédiate. Et donc, elle ne se réfère plus immédiatement à l'expérience. Elle se réfère fondamentalement à l'expérience, mais pas immédiatement. Elle se réfère à elle-même. Et c'est elle-même qui a cette espèce d'autocritique pour saisir ce principe propre. À côté des principes propres, il y a les actions. Les actions qui sont différentes. Voilà, les actions. Les actions, ce n'est pas les principes propres. L'action, le grand, l'action premier, c'est ce qu'on appelle la non-contradiction. Ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Quand vous dites le principe de non-contradiction, vous ne pouvez pas affirmer en même temps qu'une chose est et qu'elle n'est pas, sous le même rapport. Ce n'est pas un principe propre. Je ne peux rien déduire de cela. C'est la loi fondamentale de ma vie intellectuelle. Vous avez dit ça, naturellement, une loi. Je ne peux pas affirmer en même temps, je ne peux pas affirmer et nier en même temps, sous le même rapport, que cette réalité est ou n'est pas. Donc, c'est le fait de montrer que l'intelligence, dans l'affirmation et la négation, se dit. Je ne peux pas faire la synthèse des deux. Au fond, ce sera le grand problème de l'hégélianisme. Hegel voudra faire la synthèse des contradictoires. Alors, je ne veux pas entrer dedans ici, mais c'est intéressant de voir que tout le problème de la philosophie contemporaine, c'est au fond de vouloir dépasser les contradictions. Il y a un livre qui est très intéressant là-dessus, Carouge, sur le c'est un livre qui est paru il y a quelques années, sur le point de vue de la perspective de toute la mystique de la philosophie contemporaine qui veut dépasser le point de vue de l'affirmation et de la négation. Et c'est extrêmement bien fait, c'est intéressant parce que c'est tout un assemblage de textes où on voit toujours cette espèce d'aspiration profonde de dépasser le principe de non-contradiction. Et on comprend très bien. Le principe de non-contradiction, c'est une loi qui montre les limites de ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle dépend de ce qui est. C'est pour ça qu'elle ne peut pas affirmer et en même temps nier, sous le même rapport, que c'est et que ça n'est pas. Donc on voit les limites. L'intelligence dépend de l'être. Or, dans l'idéalisme, on voudrait dépasser cela et être au-dessus de la contradiction. Alors, quelle est la vérité d'un axiome ? Quelle est la vérité d'un axiome ? Quand vous prenez cet axiome, l'affirmation, est-ce que vous pouvez prouver la vérité de cet axiome premier ? Vous ne pouvez pas prouver sa vérité. Un axiome comme ça est évident. Qui dit évident, dit que ça porte en soi-même sa propre mesure de vérité. La vérité est un principe. La vérité d'un principe, c'est sa nécessité. C'est difficile de dire ça. Parce que la vérité n'est pas la vérité d'un principe. La vérité qualifie l'intelligence, qualifie le jugement. Alors, je peux regarder la vérité du côté de la réalité. Alors là, tout à fait d'accord. voyez, c'est la fameuse distinction que saint Thomas a fait entre la vérité ontologique et la vérité formelle. Mais ici, je regarde, comme je suis au point de vue critique, je regarde la vérité du côté de la vie de l'intelligence. C'est ce qui qualifie un jugement. Un jugement est parfait quand il est vrai. Oui. Donc il faut saisir l'intelligence affirmant et énonçant un axiome premier, le principe de non-contradiction, et voir qu'en affirmant cela, l'intelligence peut elle-même dire cet axiome est vrai. Oui. Donc c'est l'intelligence qui affirme que cet axiome est vrai. Alors je suis d'accord avec vous que la nécessité fonde la vérité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est toujours un rapport. Vous voyez ? Mais l'intelligence, je l'ai dit tout à l'heure, est capable de se dédoubler. Donc elle peut être à elle-même sa propre mesure, tout en étant mesurée par elle-même. C'est ça le propre de la... C'est parce que justement elle peut se dédoubler. Si l'intelligence ne pouvait pas se dédoubler, elle ne pourrait pas dire ça. Elle dirait « j'affirme, c'est tout ». Non, l'intelligence peut affirmer le principe de non-contradiction et être capable de comprendre qu'en affirmant le principe de non-contradiction, elle est à elle-même mesure de sa propre affirmation. Ah, mais c'est évident qu'ils l'ont pas reconnu comme un action. Autrement, il relativise cet axiome en disant que, justement, le principe de non-contradiction a été considéré comme un axiome par toute la philosophie antérieure, mais si je me place du côté de la subjectivité transcendantale, je peux dépasser cet axiome. Et on comprend très bien qu'on le fait. C'est assez facile à comprendre. En deux mots, c'est celui-ci. Quand vous regardez l'axiome au niveau du réalisme, vous dites « être » et « non-être ». Si je prends être et non-être, le non-être nie tout l'être. Donc il n'y a rien entre les deux, il n'y a pas de sujet. Et c'est pour ça que je ne peux pas affirmer en même temps et nier que c'est ou ça n'est pas. Mais si je me place du côté du sujet affirmant, dans la perspective de la subjectivité transcendantale, le sujet connaissant affirme et le sujet connaissant nie. C'est le sujet connaissant. Le sujet connaissant est au-delà de l'affirmation et de la négation. Donc il fait la synthèse. Vous voyez ? Si je regarde le contenu de l'affirmation et de la négation, position réaliste, je dis cet axiome qui dit qu'en même temps on ne peut pas affirmer et nier sous le même rapport la même réalité. Je regarde le contenu. Le contenu, c'est être et non-être. Alors, entre être et non-être, il n'y a rien. On ne peut pas mettre un intermédiaire entre être et non-être, il n'y a rien. Le non-être nie tout l'être, puisqu'il est non-être. Le non-être prie absolument. Il nie absolument tout l'être. Mais si maintenant je me place non plus du côté objectif, mais du côté de la subjectivité de celui qui affirme. Donc, du côté de la subjectivité de l'intelligence affirmant et niant. Je dis affirmation numéro 1, c'est affirmer ceci est. La négation numéro 1, c'est affirmer ceci n'est pas. Or, c'est le sujet qui affirme et qui nie. Si le sujet affirme et nie, le sujet est donc au-dessus de l'affirmation de la négation. Donc, je vois par là la possibilité de dépasser l'affirmation et la négation. Et ce dépassant, c'est tout simplement le sujet connaissant. Vous voyez comment on arrive en regardant non plus le contenu objectif, mais le conditionnement de ma vie intellectuelle à dépasser être et non-être. Parce que je dépasse non pas être et non-être, mais je dépasse affirmation et négation. C'est pas la même chose, vous voyez. Mais comme l'affirmation, dans ce qu'elle a de plus absolu, c'est dire ceci est, et la négation, dans ce qu'elle a de plus absolu, c'est dire ceci n'est pas, je vois comment je puis très bien arriver à dépasser l'affirmation de la négation. Et je dis, je dépasse le principe de non-contradiction. En réalité, je donne une signification toute nouvelle au principe de non-contradiction. Puisque je ne regarde plus l'être et le non-être, mais je regarde l'affirmation de l'être, la négation de ce qui n'est pas. Et je dis que je dépasse l'affirmation et la négation. Oui. Je crois que ça, c'est très important pour comprendre, justement, comment, dans une certaine perspective philosophique de la subjectivité transcendantale, où je vois en premier lieu le sujet connaissant, je vois comment ce sujet connaissant est au-delà de l'affirmation et de la négation, puisque c'est lui qui est source de l'affirmation et de la négation. Donc il est au-delà, c'est bien évident. Mais dire que je suis au-delà de l'affirmation et de la négation, ça ne veut pas dire que je suis au-dessus du principe de contradiction, puisque le contenu de mon affirmation, c'est d'affirmer ceci est. Et le contenu de la négation, c'est d'affirmer que ceci n'est pas. Or, si je me place du côté du contenu objectif, je vois qu'en effet, le mal être subjectif. Mais si je me place du côté subjectif, alors je vois en effet que les personnes. Ça, c'est, je crois, très important de comprendre ça. C'est une petite clé, très simple, mais qui comprend tout de suite les deux grands aspects de la philosophie. Et parce qu'au fond, ce qui est au cœur de la dialectique, c'est le dépassement de la contradiction. La dialectique n'existe pas si je respecte la contradiction. Et je dis, ce qui est, on ne peut pas en être en même temps de ne pas être. Mais si je dépasse la contradiction, alors la dialectique devient reine. Elle devient absolue. Elle n'a plus qu'à se développer. C'est le développement du devenir, le devenir de l'intelligence. Et je suis en présence du devenir d'intelligence. Bon, je continue. Hein. Alors j'essaie de vous. Je peux regarder ensuite le jugement qui regarde la conclusion. Je peux, dans la science, une conclusion scientifique. Conclusion scientifique, c'est pas le jugement. J'ai affirmé un principe et puis je conclus, je déduis. Donc il y a une affirmation particulière dans l'affirmation d'une conclusion. Conclusion scientifique. Ou d'une loi, c'est la même chose. La conclusion scientifique, c'est une loi. Alors, quand je regarde quelle est la vérité d'une conclusion scientifique, où est la mesure de la conclusion scientifique? La mesure de la conclusion scientifique, c'est ce à partir de quoi j'ai affirmé cette conclusion scientifique. Nous dirions dans un terme habituel les prémices. C'est-à-dire les affirmations premières, les principes d'où j'ai conclu la conclusion. Et donc la vérité de la conclusion scientifique, c'est d'être conforme à sa propre mesure. Mais la mesure de la conclusion scientifique, c'est les principes, les prémices à partir desquels je suis parti. Je crois que ça, c'est facile à voir, que vous avez donc déjà, si vous comptez ici, vous avez déjà donc trois modalités de vérité. Et vous émettez ce jugement, vous dites, il est nécessaire que toute conclusion scientifique s'énonce de cette manière. Il est nécessaire que... Quand vous dites qu'il est nécessaire que, je suis en face d'un jugement et d'une énonciation d'un type très particulier, qu'on appelle ça une proposition monade. Connaître une proposition monade. Il est nécessaire que... Il est possible que... C'est une hypothèse. Quand je fais une hypothèse, alors il est nécessaire que, il est possible que, vous voyez, la nécessité ici dépend de la dépendance à l'égard des principes. Je peux regarder maintenant une quatrième type de vérité, tout à fait différente, exprès. Le jugement affectif, très important, dans l'ordre pratique, le jugement affectif. Le jugement affectif. Quand vous portez un jugement sur quelqu'un que vous aimez bien, l'ami. Le jugement affectif est d'un ordre particulier. C'est l'intelligence liée à l'amour. Parce que j'aime quelqu'un, je le juge différemment que quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est toujours comme ça. La cote d'amour, c'est ce qu'on dit, la cote d'amour pour juger de la bonne chose. Hein, et on voit très très bien. Le jugement affectif. Le jugement affectif est une réalité profonde. Et quelquefois, je suis beaucoup plus vrai quand je regarde le jugement affectif que quand je dis « Ah, moi, je suis d'une objectivité absolue. » Vous savez, quand les gens commencent à dire ça, ça prouve qu'ils sont justement dans une non-objectivité absolue. Parce que on doit comprendre qu'il y a toujours un aspect affectif. Le double, c'est de ne pas être dupe. Savoir que le jugement affectif permet de poser telle ou telle chose. Mais c'est très vrai, on n'a qu'à regarder dans les discussions. Moi, je vais être objectif. Discussion de professeur, je vais être objectif. Gardons l'objectivité. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité? J'ai toujours envie de leur dire ça. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité pour vous? C'est une objectivité scientifique. Pour eux, c'est ça, c'est l'objectivité scientifique. C'est-à-dire que c'est conforme à la méthode. Est-ce que la conclusion est conforme à la méthode? Peu importe si ce soit vrai ou pas vrai, ça n'a aucune espèce d'importance. Le tout, c'est conforme à la méthode. C'est la fameuse parole de Descartes, hein, ne l'oubliez jamais. J'aime mieux un jugement conforme à la méthode qui n'atteint pas la vérité, qu'un jugement qui atteint la vérité sans la méthode. Ça laisse à penser ça. Penser ça. Vous voyez, l'intelligence d'un bonhomme comme ça. J'aime mieux un jugement conforme à la méthode, même s'il n'atteint pas la vérité, qu'un jugement qui atteint la vérité, mais qui n'est pas conforme à la méthode. C'est très important. Ça vous éclaire sur les grandes choses. Le jugement affectif, ça consiste à porter un jugement sur une personne qu'on aime. Pas seulement une personne. Je peux avoir un jugement affectif sur du vin. J'aime beaucoup ce vin. Je dis, il est le meilleur de tous les vins. Est-ce que votre jugement est vrai? Il est vrai dans la mesure où vous l'aimez. Quelle est la mesure de votre jugement à ce moment-là? Mais c'est l'amour. C'est l'amour que j'ai pour l'ami. C'est l'amour que j'ai pour le vin. L'amour que j'ai pour l'ami me permet de porter un jugement tout à fait différent que s'il ne l'aimait pas. Très très curieux ça, le jugement affectif. Et la vérité du jugement affectif est très particulière. Alors vous allez dire que c'est purement subjectif ça. Mais pas du tout. L'amour n'est pas purement subjectif. L'amour porte sur une personne, c'est quelquefois bien plus objectif que être relatif et conforme à une méthode. Vous voyez la différence de l'objectif, ça, c'est criant ces choses-là, quand on les a compris une fois et qu'on voit que ce qu'on fait dire constamment aux choses, quand on dit « Ah, est objectif ce qui est conforme à une méthode ?» Quand il s'agit d'un jugement affectif, l'amour porte sur une personne. Une personne qui est un bien, qui est mon bien, porte sur une personne. Alors, l'amour a son objectivité propre. C'est pas purement, quand on dit subjectif, on dit capricieux, mais pas du tout. L'amour a son objectivité propre, une objectivité qui va plus loin que celle de la méthode. Ça va plus loin. Et donc, respecter un jugement affectif, c'est d'être plus vrai que celui qui ne veut absolument pas respecter. C'est constamment des choses comme ça. On voit ça, vous savez, dans la question des notes de dissertation, dans la question des notes d'examen. Le professeur qui dit, moi je veux être objectif, le barème absolu. Mais il commet des injustices farouches en voulant être objectif. Parce qu'ils ne tiennent absolument pas compte des personnes. Alors, du côté de la justice sociale, on sera très sensible à ça. Et on ne sera pas sensible du côté, tout simplement, de ce que représente le point de vue intellectuel. Alors qu'on devrait être encore plus sensible à ça. Parce que la justice sociale, c'est tenir compte des personnes. Et pas tenir compte uniquement du résultat. Quand on veut être objectif en disant « moi je ne regarde que le résultat », c'est une œuvre humaine. Et vous n'avez pas le droit de regarder uniquement le résultat. Vous devez tenir compte de la personne qui l'a fait. Autrement, vous êtes injuste. Vous commettez une injustice. Et vous commettez une injustice, c'est une erreur. Parce que vous n'avez pas le droit de regarder de cette manière-là. C'est pas commode du tout, vous voyez. Et ça, c'est très important, je crois, de comprendre que l'amour, c'est vrai, c'est subjectif. C'est évident que c'est subjectif. Mais l'amour a sa propre objectivité. Et que le jugement affectif va tout le temps être présent dès qu'il s'agit de juger une œuvre humaine. Tout le temps. Je peut pas m'en séparer. Celui qui ne veut pas le regarder, eh bien, celui-là se met dans une perspective soi-disant objective qui n'est plus objective. Parce que l'œuvre d'un homme, l'œuvre d'un étudiant, ne peut pas se séparer de celui qui l'a fait. Vouloir le séparer complètement, eh bien, c'est une grande injustice. C'est important de se rappeler ça, parce que faut être attention, il ne faut pas être complice d'injustice. Et on n'a pas le droit d'être complice d'injustice. On doit donc regarder ce que représente l'œuvre liée à la personne. Je vous dis, c'est très curieux, on sera sensible dans certains domaines à la justice sociale et on verra absolument aucune répercussion dans un ordre intellectuel. On dira la science. La science est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la science? Vous voyez, tout de suite là, vous posez le problème. La science est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la science? Si l'homme était pour la science, je comprends. Si la science est pour l'homme, vous devez donc toujours intervenir quand il s'agit d'une œuvre, d'une recherche scientifique, donc d'une recherche au niveau de la licence ou au niveau du doctorat, vous devez tenir compte de celui qui l'a fait. Si vous ne tenez pas compte, vous êtes injuste. Parce que vous séparez quelque chose que vous ne pouvez pas séparer. C'est très très curieux, le jugement affectif. Hein. Donc il y a là un jugement tout à fait particulier. La mesure là, c'est l'amour. À côté de ce jugement affectif, posez le jugement prudentiel. Au niveau moral. Le jugement affectif est au-delà de la morale. Alors, le jugement prudentiel. Le jugement prudentiel. Le jugement prudentiel, c'est lorsque vous essayez de comprendre si votre jugement est juste ayant choisi tel moyen en vue de telle fin. Vous choisissez tel moyen en vue de telle fin. Constamment, vous voyez, pour les vacances où on a un peu plus de liberté. Alors on choisit tel moyen en vue de telle fin. Est-ce que ce jugement prudentiel est juste? Est-ce qu'il est vrai? Il y a une vérité du jugement prudentiel. Quelle est la mesure du jugement prudentiel? La mesure du jugement prudentiel, c'est l'intention qui me relie à la fin. Mais c'est plus directement l'amour, c'est l'intention qui me relie à la fin. L'amour me relie à la personne. Cette personne peut devenir ma fin. Alors à ce moment-là, j'ai l'intention de l'atteindre et de l'unir, d'être le plus proche possible d'elle. Alors à ce moment-là, les moyens que je choisis dans mon jugement prudentiel, les moyens sont vrais, ce jugement prudentiel est vrai, dans la mesure où ces moyens sont conformes à l'intention. Vous voyez, constamment, hein, je crois que vous commencez à voir que la vérité a des modalités très très différentes. Vous voyez, continuer, se poser la question, quelle est la vérité dans un discours? Est-ce que ce discours est vrai? Ce que je vous affirme là est vrai. Au contraire, vous direz un mensonge. C'est la question du mensonge. Ça se ramène à la vérité, la question du mensonge. Alors, un discours est-il vrai? Quelle est la vérité d'un discours? S'il est conforme à votre intention, à votre pensée. S'il est conforme à votre pensée. Si vous dites ce que vous pensez, vous êtes vrai dans votre discours. Si au contraire, vous ne dites pas ce que vous pensez, vous n'êtes pas vrai dans votre discours. Alors oui, tous les problèmes du camouflage. Tous les problèmes du camouflage. Je dis ça, je sais très bien que c'est faux, mais je suis obligé de le dire. J'entends de guerre le camouflage. C'est vrai que de temps en temps, on a envie de prendre la vérité du camouflage, parce que si on dit la vérité dans certains contextes, on sait que ça vous retombe sur le dos. On n'a pas envie du tout. Il faut être prudent, donc il faut être prudent, il s'agit de camoufler. Camoufler le lingot d'or, hein. Tout le monde va se jeter dessus. Alors il faut le camoufler. Camoufler telle ou telle chose, tout le monde va se jeter dessus. Alors vous voyez, c'est très très difficile, alors je n'entre pas dans tous ces problèmes du mensonge. Alors la casuistique là-dedans est admirable. Ça. Mais au plan philosophique, un discours est vrai dans la mesure même où il est adéquat à ma pensée. pas sortir de là. Autrement, il est erroné, autrement, il est faux. Bon, voilà tout le point de vue des modalités de la vérité. Passons maintenant, une fois que vous avez compris ça, je peux dire que un jugement est vrai quand il est conforme à sa mesure. Et je ne précise pas plus. Mon jugement est vrai quand il est conforme à sa mesure. Cette mesure peut être le contenu même de mon jugement. Oui. Et c'est ça la vérité. Alors, regardons maintenant qu'on va être les éléments. Non, on va entrer un peu plus en logique maintenant. Parce que maintenant, j'étais en critique. C'était plus. Alors, regardons maintenant les éléments de l'énonciation. Il y a un très gros problème. Quand je dis ceci est, les éléments d'énonciation impliquent ce qu'on appelle le nom et le verbe. Jusque nouvel ordre. Parce que ça va changer. Alors, jusque maintenant, c'est le nom et le verbe. Ça va changer puisque vous allez dire que le langage ne constitue plus de nom et de verbe, mais le langage est purement fonctionnel. Ce sera la nouvelle grammaire. J'ai appris ça l'autre jour. La nouvelle grammaire, ce sera d'un point de vue purement fonctionnel. Alors vous ne verrez plus nom et verbe, parce que le nom et le verbe, c'est lié à une vieille philosophie ancienne. Il y a la philosophie aristotélicienne. Alors c'est très gênant, vous êtes obligé de changer et dire que pratiquement votre langage c'est simplement des relations. Vous avez des relations, c'est-à-dire des fonctions. Vous allez avoir un langage purement fonctionnel. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ça va être drôle. C'est très drôle, hein. c'est très curieux, mais c'est en train de se faire. Le langage est tellement révélateur de la pensée. Alors c'est quand même très intéressant de voir ça. Jusqu'ici, on peut encore le dire maintenant. Bon, jusqu'ici, je dis que le... Oui, parce qu'après, on devra essayer de voir comment ce langage purement fonctionnel pratiquement ne dit plus rien. On sait, c'est curieux, ces choses-là. Parce que je crois que la dernière destruction qu'on peut faire, c'est la question du langage. On peut détruire le langage. Si je détruis le langage, vous voyez, j'ai un langage qui est commandé uniquement par une pensée dialectique, c'est un langage qui n'a plus aucun critère de vérité. Donc ma vérité, c'est actuellement le moment de ma dialectique. Mais je peux demain dire exactement l'inverse, sans aucune difficulté, je suis encore dans la vérité. Parce qu'il n'y a plus de référence au réel. S'il n'y a plus de référence au réel et qu'il y a la référence uniquement à mon mouvement de pensée, alors mon mouvement de pensée change. Demain, je pense autre chose qu'aujourd'hui. C'est bien évident. Je pense autre chose. Et alors, ce sera uniquement en référence à ma pensée. Donc, si tu restes con, ce qu'on dit, mais ceux qui sont dans une purement... On n'arrive plus à savoir quelle est la vérité. On dit, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Aujourd'hui, ils peuvent dire ça. Mais demain. Alors, voyez comme ça va loin. Parce que quand vous dites oui à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, maintenant, je suis conforme avec vous. Demain, j'en sais rien. Mais j'ai un langage de pure fonction. Il n'y a plus aucune partie. Le nom et le verbe. Normalement, je laisse entre parenthèses. C'est quand même intéressant de voir ça. C'est quand même très important de voir ces évolutions et ces changements. Alors, je prends ici le langage. Dans l'énonciation, implique un nom et un verbe. Normalement, le nom, c'est le sujet qui reçoit l'attribution. Il y a un nom et un attribut. Et le verbe est toujours considéré comme quelque chose qu'on attribue. Le verbe est toujours relatif à un mot. C'est pas si je dis « est » simplement. Quand je dis « pierre »,« est ». Je commence à comprendre. Mais quand je dis « est », très bien. La signification est extrêmement vague. Hein. Existe, est. Très vague. Quand je dis « Pierre est », voilà, c'est en référence avec Pierre. Le verbe est en référence avec le nom. C'est la grammaire, très simple. Et voyons bien, ce qui est important, c'est de saisir que l'énonciation, c'est l'unité entre le sujet et l'attribut. entre le nom et le verbe. Ça retire tout à fait partout. Ce que fait l'intelligence en jugeant, ce que fait l'intelligence en affirmant ceci est, elle fait l'unité entre le nom et le verbe. Parce que s'il y a une unité, ceci est, c'est pas. Alors, essayons de comprendre. Nous avons dit qu'avant le jugement, il y a l'énoncé, il y a l'appréhension. L'appréhension me fait comprendre les déterminations premières de ce qui est, c'est-à-dire les catégories. Nous l'avions dit, les catégories, les 10 catégories. Alors, les 10 catégories, parmi ces 10 catégories, et au-delà des 10 catégories, il y a le sujet, ce à quoi toutes les catégories sont attribuées. Mais le sujet n'est pas une catégorie. Le sujet n'est pas au sens strict appréhendé. Alors vous voyez, la très grosse question qui se pose, c'est de comprendre le passage de l'appréhension au jugement. Et comment certains, Occam entre autres, dira, lui attribuer, qui était faux du monde entier. Alors comment un cas lui dira, c'est de fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Il a tout changé, on a mis très longtemps à digérer son changement. Mais lui, là, il a changé quelque chose. Occam considère que le jugement, c'est une appréhension plus une appréhension. Donc, j'appréhende telle détermination plus telle autre détermination, qui est donc un jugement. Un jugement implique une composition, donc il implique une addition de deux appréhensions. Ou au contraire, le jugement implique une division, une séparation d'une appréhension à l'égard de l'autre appréhension. Vous voyez que concevoir le jugement de cette manière-là, c'est le concevoir uniquement au niveau de la fonction. C'est la nouvelle grammaire. Elle sera conforme à Occam. C'est très curieux. Très curieux. Une appréhension plus une appréhension. Une détermination plus une autre détermination. Ça fait une composition. Je reste au niveau des catégories. Je reste au niveau, donc, de l'intelligibilité. Au niveau de l'intelligibilité, c'est pas gênant du tout. En effet, je peux faire des associations. Je peux dire que, si vous voulez, telle détermination fondamentale implique telle autre détermination fondamentale. Je prends comme détermination fondamentale l'homme. L'homme, c'est une détermination, c'est une catégorie. L'homme, bien qu'il est capable il est capable d'apprendre la grammaire. Donc il est capable d'apprendre la grammaire. Capable d'apprendre la grammaire, c'est une autre détermination. Et quand je dis l'homme est capable d'apprendre la grammaire, vous comprenez que est, il est capable d'apprendre. C'est ce qu'on appellera la copule, c'est ce qui va unir les deux. C'est ce qui va mettre le signe addition. L'homme capable d'apprendre la grammaire. Je reste dans l'ordre quantitatif. Je laisse dans l'ordre de l'intelligibilité. Et je dis voilà le jugement. Or, en réalité, quand je dis « homme capable d'apprendre la grammaire », est-ce que c'est un jugement? Non, c'est une définition. Le télescopage du jugement, ça, c'est très très important à saisir. Si on arrive à bien saisir ça, on comprend ce que représente le jugement d'existence. Vous voyez? Le jugement d'existence qui revient à la réalité et qui ne fait pas seulement une somme ou une opposition des catégories, au niveau catégorien. La catégorie homme, c'est la substance seconde. La catégorie capable d'apprendre la grammaire, c'est une qualité. Donc, puisque dans les catégories, il y a la substance, il y a la qualité. Alors, je mets substance plus qualité. Voilà, je prends. L'homme est capable d'apprendre la grammaire. En réalité, il n'y a pas nom et verbe, il y a tout simplement une fonction de relation. On
voyez que ceci n'explique plus, mais entre parenthèses, le jugement d'existence.
Parce que dans le jugement d'existence, il y a le dépassement des catégories pour dire ceci est. Il y a un retour au réel. Ce n'est pas mon avoir, je possède ça, un avoir intellectuel. Les catégories, je les possède. C'est un avoir intellectuel. Ce n'est pas au niveau de cet avoir intellectuel que se fait le jugement d'existence. Mais ce jugement d'existence, il revient à la réalité et il fait que l'intelligence se mesure à la réalité. Ceci est. Il y a donc le dépassement des catégories pour toucher au sens fort, discerner la réalité. Et alors à ce moment-là, vous comprenez que l'appréhension est une opération élémentaire, ce que vous avez dit, c'est un élément. Ce n'est pas en additionnant les appréhensions que j'ai le jugement. Le jugement est un autre acte d'intelligence, un acte d'un caractère tout à fait différent. C'est un acte qui est capable d'adhérer au réel. Tandis que là, je n'adhère pas du tout au réel. Je poursuis mon discours au niveau de mon intelligibilité, c'est tout. J'additionne. Homme, capable d'apprendre la grammaire, capable d'être en relation avec les autres, capable d'être un ami, et ainsi de suite. Je reste au niveau du possible. Je reste au niveau du possible. C'est un langage du possible. Et j'additionne toutes les possibilités. L'être est un tissu de relations. Et au fond, c'est un tissu de relations. Et je suis uniquement en face d'un tissu de relations. C'est Merleau-Ponty qui disait ça. C'est le premier Merleau-Ponty. Hein. Le premier Merleau-Ponty disait l'être, c'est un tissu de relations. Le premier Merleau-Ponty qui est très fort dans la phénoménologie husserlienne. Et puis le dernier Merleau-Ponty, il dit non, il faut chercher l'être sauvage. C'est très très joli. Passage du tissu de relations à l'être sauvage. L'être sauvage, c'est chercher justement l'être au-delà des catégories. Parce que les catégories, vous comprenez, c'est moi qui apprivoise l'être. C'est mon avoir. Et donc je le mets dans mes catégories. C'est moi, ça. Tandis qu'au contraire, saisir l'être sauvage, c'est de saisir l'être tel qu'il est. Alors ce désir qu'il a de dépasser le tissu de relation de l'appréhension pour rejoindre l'être réel. L'être réel que je rejoins dans le jugement d'existence, en disant ceci est. Mais alors quand je rejoins l'être réel, il y a cette chose tout à fait différente, c'est que je suis en présence d'un non, ceci. Donc, c'est le sujet des catégories. Le ceci, c'est le sujet des catégories. Ce qu'Aristote appelle la substance première, mais qui est un au-delà des catégories. Et donc, le sujet n'apparaît que dans un jugement d'existence. Il y a donc, dans le jugement d'existence, une opération d'un type nouveau, irréductible à l'appréhension. Je peux additionner des appréhensions, je peux les additionner indéfiniment, je ne rejoindrai jamais le jugement d'existence. Vous voyez le fameux problème de Husserl, le fameux problème de Heidegger. Faut pas l'oublier. Heidegger se sépare de Husserl dans la perspective de la réflexion heidéique pour rejoindre l'être. Comment rejoindre l'être? Et en fond, c'est tout le drame de Merleau-Ponty quand on regarde un peu. Le premier Merleau-Ponty et le deuxième Merleau-Ponty. Comment rejoindre l'être? Est-ce que je peux rejoindre l'être en additionnant des appréhensions? Non. Je resterai dans un domaine uniquement de forme intelligible. Je ne rejoindrai jamais l'être. Pour rejoindre l'être, il faut, alors on dira le jugement naïf. Le jugement naïf d'existence. L'alliance de mon intelligence et du toucher. L'alliance de mon intelligence et des sensations. Où je rejoins la réalité. Si je ne la rejoins pas comme ça, je ne pourrai jamais la rejoindre. Parce que dans mon avoir, j'ai assimilé la forme intentionnelle. Je l'ai assimilée. Mais je la possède au-dedans de moi-même. Sous ce mode intentionnel. Et je ne rejoindrai jamais l'être. Alors là, c'est très important de saisir ça. C'est très important de saisir que le jugement d'existence vous montre que l'intelligence, en jugeant et en discernant, dépasse doublement l'aspect quiditatif. Au niveau du sujet, le nom, substance première des catégories d'abstraction, qui est un au-delà des catégories, et le verbe est au-delà de toutes les catégories, le verbe être ou le verbe marcher, peu importe, le verbe. Ceci est. Pierre marche. Qu'est-ce que ça veut dire Pierre marche? Ça veut dire Pierre est marchand. Avec tous les équivoques que ça donne. Alors, vous avez la lettre. Alors, nous verrons ce que représente cette attribution, le problème logique de l'identité qui se fait entre le nom et le verbe.